VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Kigali, bienvenue à notre journal. Les violences au Burundi, selon Refugees International, une ONG américaine militant pour la protection des personnes déplacées, citée par l'AFP, des Burundais réfugiés au Rwanda sont recrutés par des groupes armés en violation du droit international. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG américaine pointe du doigt le recrutement de réfugiés burundais à l'intérieur du camp de réfugiés de Mahama, dans le sud-est du Rwanda, par des groupes armés non étatiques. Refugee International dit s'être basé sur des renseignements collectés au Rwanda en septembre et octobre 2015, et il mentionne en particulier le recrutement d'enfants. Michael Boyce, l'un des rédacteurs du rapport, estime que l'armement des réfugiés burundais au Rwanda représenterait non seulement une sérieuse violation du droit international, mais aussi une grave menace pour la paix au Burundi et l'ensemble de la région. D'où l'appel de Refugee International au Rwanda, accusé par le Burundi de soutenir un embryon de rébellion, pour que Kigali s'assure que tout recrutement de réfugiés cesse immédiatement sur le territoire rwandais. L'ONG américaine exhorte également l'Union africaine et l'ONU à sanctionner ceux qui violent le caractère civil et humanitaire du droit d'asile. En Centrafrique, des tirs, menaces et intimidations ont marqué le déroulement du référendum constitutionnel. Les violences ont fait 2 morts dans l'enclave musulmane de Bangui pour cette première étape d'un processus électoral censé sortir le pays de 3 ans de violents affrontements intercommunautaires. Malgré tout, Julius Wifen Ngwadebaba, le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, reste confiant.
Le déroulement de ce référendum est pour nous un test grandeur nature qui nous permet, là, maintenant, d'évaluer la situation et de prendre des mesures plus adéquates pour le prochain scrutin dont l'enjeu est plus important. L'Autorité nationale des élections se réunira pour évaluer la situation et prendre éventuellement la décision d'autoriser la poursuite de cette opération, non seulement à l'intérieur, mais dans certains pays où les Centrafricains n'ont pas pu, n'est-ce pas, faire le vote, soit à temps, soit carrément pas du tout, pour question de déploiement du matériel et autres. Comme je l'ai dit, nous devons aller de l'avant parce que c'est la seule issue de cette transition qui tire à sa fin. Et donc, les mesures adéquates seront prises. Je ne dirais pas qu'ils corrigeront toutes ces failles, mais au moins pour que nous organisions, là, d'ici là, un scrutin acceptable aux résultats acceptés.
Julius Wifen Ngwadebaba, rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, au micro de notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso. Procès Issenabré à Dakar, l'audition des témoins et des victimes au procès de l'ancien dirigeant tchadien qui se déroule au Sénégal devrait se terminer le 15 décembre. C'est ce qu'a déclaré Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York. Les conclusions des avocats devraient être déposées en janvier, avant les plaidoiries en février, suivies du verdict avant fin mai. Issenabré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, avant de s'exiler au Sénégal. Il est jugé par les chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Au Tchad même, les centrales syndicales lèvent le mot d'ordre de grève dans le secteur public lancé le 8 décembre dernier pour exiger le paiement de leur salaire du mois de novembre. Le point avec notre correspondant N'Djamena André Kodmadjinga.
Après avoir constaté l'effectivité des paiements de salaire du mois de novembre 2015, aussi bien au bietage que dans les différentes banques en N'Djamena comme en province, les deux centrales syndicales, à savoir le collectif des syndicats du secteur de l'éducation du Tchad et l'Union des syndicats du Tchad, appellent leurs militants à reprendre le travail ce lundi 14 décembre sur toute l'étendue du territoire tchadien. Cette grève qui a duré 1 semaine a paralysé l'administration tchadienne. Conséquence, les malades sont abandonnés à leur triste sort, quand bien même qu'un service minimum est observé dans les hôpitaux. Certains établissements scolaires qui ont déjà programmé les examens la semaine dernière ont purement et simplement ajourné. Ce qui va jouer certainement sur le calendrier, nous a confié un responsable d'un établissement scolaire public qui requiert l'anonymat. À Abéché et à Bébédia, deux villes situées respectivement à l'est et au sud du Tchad, les élèves et étudiants ont manifesté pour soutenir leurs enseignants pendant cette grève, ce qui a occasionné quelques dégâts matériels et des arrestations. À entendre les responsables de ces deux centrales syndicales, la reprise de cette grogne sociale est imminente dans le secteur public. Ils menacent de cesser le travail si le paiement de salaire du mois en cours n'est pas déclenché d'ici le 20 décembre 2015. André Kodmadjinga, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burkina Faso, la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 29 novembre par le Conseil constitutionnel aura lieu demain. C'est ce qu'a annoncé le Conseil dans un communiqué. Le Conseil devrait valider l'élection de Rochemar Christian Kabore, ancien baron du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, passé dans l'opposition un an avant la chute du chef de l'État en octobre 2014. Aucun de ses adversaires n'a contesté le scrutin qui s'est déroulé de manière transparente et crédible de l'avis des observateurs. De sources concordantes, l'investiture du nouveau président devrait avoir lieu le 22 décembre. Toujours concernant le Burkina Faso, c'était hier le 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo et trois de ses compagnons. Trois anciens militaires de la garde de l'ex-président Blaise Compaoré ont été inculpés. L'État burkinabé a indemnisé les ayants droit de ce quadruple assassinat et une avenue a été baptisée au nom de Norbert Zongo. Mais l'un des avocats de la famille Zongo estime que les choses ne devraient pas en rester là. Maître Prosper Parama.
Nous avons déjà vécu l'expérience d'une précédente inculpation dans ce dossier, qui finalement a abouti à un non-lieu. Voilà pourquoi nous insistons pour dire que ce que nous recherchons, ce n'est pas uniquement l'inculpation. L'inculpation, c'est un moyen pour atteindre la finalité. Et la finalité espérée par tout le peuple, c'est l'identification, le jugement, non seulement des commettants dans cette affaire, mais aussi et surtout des commanditaires.
Maître Prosper Parama, un des avocats de la famille Zongo au Burkina. Après la conférence sur le climat à Paris qui s'est terminée sur un accord pour limiter le réchauffement climatique, le débat est ouvert sur les énergies renouvelables. Au Togo, on y réfléchit avec en ligne de mire l'énergie solaire. Des précisions avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Se tourner vers les énergies renouvelables est un impératif de développement pour le continent le plus ensoleillé du monde. Guy Arosoudé, ingénieur spécialisé dans les énergies durables.
Tous les champs d'énergie renouvelable sont à la faveur de l'Afrique. Et pourquoi nous n'excellons pas dedans? Parce que ce sont des technologies qui nous échappent encore et qui coûtent cher. Mais ce qui est sûr, l'Afrique a de très beaux jours devant elle pour les énergies renouvelables.
Aujourd'hui, l'énergie solaire commence par gagner le continent, mais au Togo, sa cherté émousse l'engouement de la population, comme le souligne Amatelou Banla, président de l'Association togolaise des professionnels en énergie renouvelable.
Un panneau qui est vendu à Lomé à 100 000 francs peut être retrouvé au Mali à 50 000 francs.
Pour pouvoir exploiter son potentiel solaire, le Togo a des efforts à faire, estime Yaovi Kogbe, responsable de l'Organisation pour l'environnement et le développement durable au PED Togo.
Nous avons d'énormes problèmes d'énergie, alors que nous avons énormément de potentiel. Le Togo peut chercher à mobiliser des financements endogènes pour aller vers le développement des énergies renouvelables et essayer de mettre aussi en place des mesures incitatives, par exemple détaxer le matériel solaire. Aujourd'hui, nous savons que cela coûte énormément cher. Donc, si on veut encourager les populations qui ne peuvent pas avoir accès à l'électricité par le réseau conventionnel, il serait intéressant donc de les encourager à aller vers des énergies propres qui nous permettent donc d'être sur une trajectoire de développement sobre en carbone.
La conversion vers l'énergie solaire rime avec un changement de comportement, indique l'ingénieur Guy Arosoudé.
C'est ne pas laisser les lumières allumées, ne pas mettre une ampoule là où il ne faut pas. C'est voir un peu son installation pour ne pas avoir des déperditions. Ce sont nos comportements qui nous amènent à surconsommer.
En août dernier, le Togo s'est doté d'un plan d'action des énergies renouvelables qui prévoit de porter la puissance installée en ces énergies durables à hauteur de 331 MW. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La lutte contre le terrorisme maintenant, le groupe État islamique EI, déjà ancré solidement sur les côtes de la Libye, commence à progresser vers l'intérieur du pays. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Selon le responsable français, l'État islamique a pour objectif l'accès à des puits de pétrole. Ils sont à Sirte, ils étendent leur territoire sur 250 km linéaires de côte, mais ils commencent à pénétrer vers l'intérieur et à avoir une tentation d'accès à des puits de pétrole et des réserves de pétrole, a confié Jean-Yves Le Drian à la radio RTL. Et pour terminer, ici aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016, inquiète jusque dans son propre parti après sa proposition de fermer les frontières américaines aux musulmans. Mais le maillard de l'immobilier assure que ceux qui pensent lui barrer la route vers la Maison-Blanche se font des illusions. La proposition de Donald Trump d'empêcher temporairement les musulmans d'entrer aux États-Unis met en danger la sécurité nationale du pays, a estimé pour sa part le secrétaire d'État américain John Kerry. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.